qui se fait emprisonner dans un camp à Shanghai, à l'époque où le Japon avait envahi la Chine en 1945, et qui va construire sa vie sur les rapports humains au sein d'une prison et enlever justement tout ce qui est violence et permettre à ce que la violence diminue au sein d'une prison.
Et toi, Antoine ?
Un livre magnifique.
Moi, j'ai pas de livre de chevet. Ce serait pas vrai si je vous disais que j'avais un livre à côté de mon lit, mais j'ai un livre que je relis régulièrement depuis que j'ai 18 ans. Ça va pas vous surprendre, c'est Le camp des saints de Jean Raspail. Un livre dont l'auteur lui-même disait qu'il aurait été interdit aujourd'hui. Je l'ai lu à 18 ans et c'est ma claque en termes de littérature. J'ai lu beaucoup d'autres choses, mais Le camp des saints, c'est écrit dans les années 70, si je dis pas de bêtises, par un grand auteur, Jean Raspail, qui décrit la façon dont un bateau de migrants africains va arriver sur nos côtes et dont les bonnes âmes vont dire nous devons les accueillir, et il y aura dans le roman très peu de gens pour dire non mais attendez, on peut pas accueillir toute l'Afrique. Et ben je trouve que ce truc là était visionnaire et que j'invite tout le monde à le relire aujourd'hui parce qu'on est pile dans le débat.
Jean Raspail,
on est marqué par ses premières lectures.
Sur un point, ouais. Je suis d'accord avec Antoine. Jean Raspail est un très grand écrivain français, très méprisé par le politiquement correct. C'était un grand voyageur qui s'est beaucoup intéressé au peuple, justement, qui s'est beaucoup intéressé à l'identité des peuples et notamment au peuple des Inuits, etc. Il avait écrit des textes magnifiques, Terre des Hommes, etc. Donc, faut pas mépriser Jean Raspail, c'est un très grand écrivain.
Et puis, un dernier mot, parce qu'hier, quand on a appris la mort de Bernard Pivot avec Olivier, on était à BFM TV, puis on présentait BFM Story, on avait en ligne Fabrice Lucchini, que l'on salue, parce que Fabrice Lucchini nous a surpris hier, alors qu'on était en plein hommage à Bernard Pivot, à faire l'éloge des GG.
Vous êtes étonnants tous les deux parce que vous êtes d'une famille pas lointaine de Pivot, parce que vous êtes dans la filiation. Non, c'est très. Alors vous vous occupez pas trop de littérature, vous êtes plutôt grande gueule, mais enfin vous êtes plutôt grande gueule dans le bon sens, hein, dans votre émission. Mais vous êtes très bon et je suis sûr que Pivot vous aimez bien. Vous êtes émission où il y a des gens qui s'engueulent, Consigny avec le jeune homme très utopiste, José, comment il s'appelle, le gauchiste là.
C'est Bruno Poncet.
Justement, c'est Bruno Poncet.
Ah oui.
Mais bon, voilà, Monsieur Lucchini, c'est quand vous voulez.
Mais il écoute et regarde les grandes gueules.
On aimerait bien
qu'ils viennent dans les grandes gueules. Donc mais Fabrice, si tu nous écoutes, on t'attend.
Et j'aimerais parler de Flaubert avec lui.
Allez, dans un instant, suite des GG après Bernard Pivot, la dame pipi de la gare Montparnasse, licenciée parce qu'elle a pris une pièce simplement qui normalement aurait dû revenir à la société, mais elle l'a mise dans sa poche. Elle s'est faite lourder. À tout de suite avec les GG.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules. Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio. Avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Oui, voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Egouet, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présente la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire dès le réveil, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h39.
RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC ?
RMC, c'est une radio où tout le monde peut échanger. On écoute tout le monde, en fait. Voilà. Ça me permet vraiment sincèrement d'évoluer. Et RMC, il n'y a que RMC qui propose ça.
Vous écoutez RMC, RMC vous écoute. Le standard RMC vous attend au 32-16.
RMC, bien plus qu'une radio. RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour Alain. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, Antoine Dirs, Jérôme Marty, les amis, quel heure est-il? 9h42, on dit aussi 10h moins 20. Il est temps d'accueillir Anaïs Sain.
RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Pardon Barbara, t'adores nettoyer.
Ah moi j'adore.
T'aimes bien faire le ménage?
Ah ouais, j'adore. Parce que,
alors,
moi aussi.
Voilà, je vais vous raconter
un bon podcast, ça, à mon avis.
Pendant la pub, j'ai retrouvé rapidement sur mon portable et sur YouTube un extrait de ce film dont je vous parlais. C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, avec Bernard Blier, Michel Serrault, Jean Lefebvre, et donc l'histoire de la dame pipi. Et là, il y a Barbara Lefebvre qui est en train de dire, moi j'adore nettoyer.
Oui, moi j'aurais, si j'avais rien d'autre à faire, j'aurais pu faire dame pipi, hein. Bon, quand t'as pas de boulot, tu fais d'un pipi. C'est, ça m'aurait moins dérangé. Moi, femme de ménage, d'un pipi, j'aurais pu.
Quand tu fais le ménage, quoi, ça te vide la tête.
J'adore. Je fais le ménage tous les jours, moi. Ouais. Tous les jours.
Bah, ça m'étonne pas.
C'est très propre chez moi.
Oui, ça, bah, ça c'est bizarre, ça m'étonne pas.
Tous les jours.
Ça va être bien rangé aussi.
Très bien rangé. Des fois même, j'aligne les fils.
T'es un peu maniaque. C'est-à-dire que si, par exemple, on vient chez toi et qu'on déplace légèrement un vase, quelque chose, ça te gêne.
Il n'y a que mes animaux qui ont le droit de déchausser quand on arrive.
Ah oui, bien sûr.
Oh là là,
chez moi. Ah non, tu enlèves tes chaussures.
J'ai droit à ça aussi, moi.
Ah, j'ai horreur de ça. Tu vas pas marcher avec tes chaussures dans ma maison. Non, mais attends.
Bah oui.
Il n'y a que mes animaux, je te dis, qui peuvent me ramener de la poussière, c'est tout. Par contre, ils m'en ramènent de la poussière.
Bon, allez, on y va pour l'ensemble, on s'en fout pas.
Donc, les GG, deuxième journée de visite en France pour Xi Jinping. Et on a le menu, les bons petits plats dégustés hier soir par le président chinois et sa femme, reçus en grande pompe par Brigitte et Emmanuel Macron lors du dîner d'État à l'Élysée. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Ah ben non, on s'en fout pas, je veux savoir ce qu'ils ont.
Voilà, merci Barbara. Antoine.
Ah, moi aussi j'ai faim, je veux savoir.
Jérôme.
Non, on s'en fout pas, non.
Alors, en entrée, chair de tourteau et caviar au siètre d'Aquitaine sous un voile de fleurs. Le hors d'œuvre, les GG, suprême de poulette, pas de poulet, hein,
oh,
de poulette de Bresse, au pousse d'épinards accompagné de sa printanière de mori au vin jaune du Jura.
Puis, hommage à consigné, le Jura.
Alors, puis, galoche au thym et petite pousse.
Qu'est-ce que c'est?
C'est quoi une galoche?
J'en sais rien.
Tu vas prendre
une galoche?
C'est
une baffe?
Ouais. C'est moi, je connaissais. Rouler une galoche.
Rouler une galoche.
La balle, c'est galoche.
Une galoche.
Ah, rouler une galoche,
c'est
une
galoche.
Un patin. Ursula,
un patin. Ah là là.
Ursula, du rouler une pelle.
Pardon, Anaïs.
Voilà, rouler une pelle.
C'est vraiment une émission de la 7 ans ce matin.
Pour terminer en douceur.
C'est un fromage de brebis, une galoche.
Ah, d'accord.
C'est ce que je me disais.
Pour terminer en douceur, fraises de printemps sur leur lit de meringue craquante et de chantilly à la fleur de
sucre. Oui,
ça, c'est des fraises à la chantilly. Quoi.
On en fait trop ou pas pour Xi Jinping?
Attends, il faut vous préciser que c'est chaque fois un chef étoilé. Hein,
oui. Ah, oui, oui,
oui. Par contre, je ne sais pas ce qu'ils ont bu.
Chaque plat différent.
Ah bah plein de bons vins magnifiques.
On l'aurait voulu savoir, les vins.
Non, mais notre patron, y était notre futur patron, Rodolphe Saadé. Patron de CMA-CGM, il était au dîner. J'espère que
tu as en photo, ça, je vois le mec échappé, du PSG.
Ça t'a pas échappé.
Sur la photo, je vois le bonhomme du PSG. Qu'est-ce
et nous,
fait là
ce soir, on mange vrai, quoi à Marseille?
On verra ça. Mais hein, ce soir,
mais oui,
aujourd'hui, c'est le Tourmalet pour Xi Jinping.
C'est bien.
Oui, parce qu'en fait, Emmanuel bien. Macron emmène son homologue chinois à la Mongie, là où le président a passé beaucoup de vacances, chez sa grand-mère, parce qu'il a une passion, il a une passion pour sa grand-mère, qui l'emmenait skier à la Mongie, et ils vont d'ailleurs manger dans une auberge qui est pas loin de là.
L'étape du berger.
Voilà, l'étape du berger.
Oui, parce que quand il était allé en Chine, Xi Jinping avait emmené Emmanuel Macron
dans sa ville natale.
Dans sa ville natale, et donc fait, c'est pour ça que Emmanuel Macron...
C'est la question que je vais poser aux grandes gueules. Est-ce qu'on a raison de rentrer comme ça dans l'intimité, d'accueillir un homologue chinois à qui on peut faire beaucoup de reproches, jusqu'à le faire venir là où on a grandi? Ça vous choque ou c'est normal, ça fait partie des...
Emmanuel
des
Macron, il aime bien dérouler le tapis rouge au tyran. Hein. Alors qu'on a eu droit à Poutine, après maintenant Xi Jinping...
En même temps, autour de la planète, il y a plus.
Il n'y a pas que lui, hein, Sarkozy nous avait quand même obligé d'avoir la tente de Kadhafi dans les jardins. Non.
Mais la diplomatie, ça implique des efforts comme ça.
Les intérêts de la France, à la limite.
On lui a offert du cognac.
Oui, bah pendant ce temps-là, en tout cas, j'espère bien sûr que nos brillants étudiants vont bloquer les facs pour les Ouïghours. Donc, j'attends là.
Est-ce que Antoine, toi, ça te choque?
Moi, ça me choque pas.
On déroule le tapis rouge pour le président chinois.
Ça me choque pas. Moi, j'ai souvenir de cette photo de
Boris Eltsine et le président américain
Clinton.
Clinton
dans un fou rire.
Voilà, ils sont même au volant dans une voiture, etc. Bref, ils ont passé un bon moment ensemble. Ça ne règle aucun problème. Les Ouïghours seront toujours en difficulté. En revanche, je pense que créer des moments d'intimité comme ça, ça peut aider dans la diplomatie, dans les grandes crises, etc. Et donc, je ne suis pas dupe, il ne va pas ressortir grand-chose de la visite du président chinois. Mais je ne crois pas que traiter mal les gens va aider à quoi que ce soit.
Mal les traiter, donc, je t'ai dit, on peut limiter le tapis rouge et les ors de la République.
Il n'y en a pas trop, on peut difficilement faire moins.
Mais les ors de la République, c'est ce qui s'est passé hier soir. C'est pas ce qui s'est passé dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, au contraire, ils l'amènent...
C'est moins protocolaire.
C'est au centre de la vie française, quoi. C'est ce qu'il a connu lui quand il était jeune. C'est le terroir, c'est des gens qui ont les pieds ancrés dans le sol, quoi. Et ça ramène un petit peu plus aux valeurs humaines, justement. Donc, moi, je suis un peu comme, pour une fois, je suis un peu comme Antoine. C'est des histoires d'hommes. Donc, s'il y a des petites choses qui peuvent se nouer là-dessus, après, c'est des tractations diplomatiques entre deux pays. Ces gens-là sont clairement les ennemis des démocraties. Donc, qu'on aille avoir des marchés avec eux, oui, avec une extrême attention de ne pas en devenir dépendant. Parce qu'un jour ou l'autre, la dépendance, tu la payes, cher.
C'est pareil pour Narendra Modi.
Barbara, les JO et leurs préparatifs, la RATP est-elle dépassée? Écoutez bien les GG. Les usagers des bus d'Île-de-France devront vraisemblablement acheter 2 tickets à 2,50€ pendant les Jeux pour atteindre le prix de le nouveau tarif de 5€. En fait, pour des raisons de gestion, la RATP ne prévoit pas à ce stade un ticket unique à ce tarif. Il faudra en acheter 2 pour atteindre cette nouvelle somme juste pendant les Jeux.
Parce que c'est 5€ pour prendre le bus pendant les JO.
Voilà. Et 2 tickets qui devront être validés en même temps, évidemment, quoi, pour effectuer un trajet.
Parce qu'ils n'ont pas le temps de changer la billetterie.
Ils n'ont pas eu le temps de changer l'un. Alors, en tout cas, c'est l'hypothèse qui est plébiscitée, manifestement. On n'a pas eu de réponse encore de la RATP, mais on se dirigerait vers cette solution à 2 tickets. Bon, on s'en fout ou pas, Barbara?
Non, mais on s'en fout pas.
Désespéré.
En plus,
Barbara,
ils vont rien comprendre.
Jérôme,
Antoine,
ils vont rien comprendre d'avoir 2 tickets.
On s'en fout pas.
Je pense aux touristes chinois qui va se retrouver avec ses 2 tickets. Il va essayer de cacher 2 tickets.
En plus, 2 tickets, 2,50€.
Mais ça, le chinois, il sait pas.
À l'heure où, dans le monde entier, la plupart des tickets dans les transports en commun, c'est du numérique. C'est numérique avec ton téléphone. Va en Corée du Sud, va au Japon, tu vas voir ce que c'est.
Mais ça, c'est la France.
Mais t'imagines. On va être le creuset du monde. On va avoir 80-100 nationalités, des langues étrangères partout. Et à chaque fois, tu crois que le chauffeur de bus va devoir expliquer dans toutes les langues du monde qu'il faut prendre 2 tickets.
Surtout que les chauffeurs de bus, ils parlent déjà pas anglais, alors je vais te dire, tu vas bien partir.
Dans quel esprit malade c'est né ce truc-là, quoi.
Non, mais parce que je pense qu'ils voulaient passer à 5€, mais qu'ils n'ont pas le temps de changer la billetterie, surtout que le tarif, c'est uniquement pour les JO. Mais parce qu'ils veulent faire payer plus cher. T'as pas compris que le métro sera plus cher, tout sera plus cher.
Ou alors,
on offre des primes aussi aux agents.
Je crois que j'ai compris. Ils veulent vraiment faire vivre les touristes à la française.
C'est-à-dire,
je pense qu'ils ont envie que les touristes soient vraiment en immersion dans notre monde.
Acheter un pass Navigo.
Non, le monde de la bureaucratie.
Bon, les GG.
Oui.
Le tableau L'Origine du Monde, tagué hier au centre Pompidou de Metz. Le mot MeToo a été inscrit en gros avec de la peinture rouge sur ce célèbre nu de Courbet. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Ah non, on s'en fout pas.
Mon cher Antoine.
On s'en fout pas.
Jérôme?
Non, on s'en fout pas, non.
Bon, heureusement, le tableau, était protégé par une vitre. Cette action a été menée notamment par l'artiste performeuse franco-luxembourgeoise Déborah de Robertis, connue pour des faits similaires. Elle avait été poursuivie et relaxée en 2017 après avoir montré son sexe, carrément, devant la Joconde au musée du Louvre de Paris. Pourquoi on s'en fout pas, Barbara?
C'est une championne du monde, celle-là. Alors elle, c'est performeuse, déjà, c'est quoi ton boulot? Je suis performeuse. Ouais. Je comprends déjà même pas ce que c'est comme travail.
C'est une artiste,
parce que performeuse, ça veut rien dire. Non, moi aussi, je suis performeuse. Quand je vais au GG, je fais performance.
Le performeuse en ménage, tu nous as dit.
Ah oui, je suis performeuse. Bon, c'est une œuvre absolument magnifique, qui a une histoire absolument incroyable, qui a longtemps été une œuvre cachée, qui est exposé qui choque, en général.
Qui sait qu'il est, il est censuré sur Facebook.
C'est pour ça, c'est pour ça. Au contraire, il faut encore plus le montrer, et certainement pas le montrer avec voilà, cette horreur de MeToo écrit dessus, alors que c'est une œuvre qu'on devrait faire étudier. Moi, je trouve qu'on devrait le faire étudier en histoire de l'art au collège et au lycée, histoire de bien énerver ceux que ça va énerver. Oui, non, mais justement, les collégiens vont se cacher les yeux. Ben justement, ils se cachent les yeux déjà pour un oui, pour un non. Là, au moins, ils vont voir ce que c'est que l'art. Donc, c'est un tableau magnifique.
C'est l'origine du monde.
Et en plus, ça n'a aucun sens de mettre MeToo là-dessus.
C'est un tableau plutôt féministe.
C'est un tableau féministe. Ça ne veut rien dire de mettre MeToo là-dessus.
Enfin, c'est con.
C'est complètement Jérôme. À côté
non,
de la
plaque. C'est du terrorisme contre MeToo. Dire, voilà, la meilleure façon de détruire un fabuleux mouvement, c'est ça, quoi. C'est faire pour faire monter les gens contre ce mouvement, tu fais pas mieux. Donc cette soi-disant artiste, en fait, ne fait qu'une chose, c'est parler d'elle.
Ça a fonctionné puisqu'on
mais non mais voilà et ça, enfin, et ça fonctionne et ça
est-ce
fonctionne
qu'elle sert sa cause
et ça fonctionne plus tout mais elle sert absolument pas la cause voilà. Dont elle se fout éperdument
entre les jeteuses de soupe, les bloqueurs d'autoroute, etc. On en avait déjà parlé, je pense qu'il est temps de pénaliser ce type d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toléré au nom de l'art, au nom de la revendication. Non, on arrête les conneries. Stop, on ne s'attaque pas à une œuvre, etc., même pour de bonnes revendications. Donc, moi, je suis pour qu'on aille sur un projet de loi où on pénalise, parce qu'on arrête, quoi. Ils vont aller nous chercher toujours un truc plus
abracadabrantesque. Comment on peut entrer dans un musée encore aujourd'hui avec de la peinture hein.
C'est ça. Oui, ça aussi. Oui, avec un pinceau. Vrai, elle s'est mise devant le tableau.
Non, mais le pire, c'est qu'elle en a fait plusieurs. Ouais. Elle en a fait plusieurs. Elle a fait au moins 4 œuvres. Il n'y avait personne, il n'y avait pas des gardes, il n'y avait pas rien du tout. Non, on l'a laissé peinturlurer. En plus, bon, certes, il y a des vitres, mais elle abîme les cadres aussi. Donc ça veut dire que le tableau va être détaché,
oui,
il va falloir faire de la restauration.
Derrière.
Non, mais c'est de la restauration de cadres.
Est-ce qu'elle laissera une pièce de 1 euro pour les gens
qui nettoient
derrière?
Vraiment n'importe quoi.
Enfin. Alors, dans ce cas-là, la sanction, à mon avis, c'est qu'elle nettoie elle-même.
Non, mais laisse tomber.
Elle nettoie ce qu'elle a dégradé.
Mais c'est des rebelles de bac à sable, c'est des gens qui n'iront pas aller se battre là où il faut se battre pour le droit des femmes, pour les femmes iraniennes. Tu l'entends pas, madame MeToo?
C'est sûr qu'elle prend pas de risque.
Ah, bah là, c'est sûr que là, tout d'un coup. Par contre, là où il faut aller prendre des risques, là où il faut aller avoir des actions qui sont vraiment des actions de courage et de militante, alors on n'entend plus personne. Hein. Franchement, c'est pathétique.
Merci Anaïs Sainz. Je vous rappelle, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, là, l'expérience PSG, les amis, il ne faut pas oublier.
Non.
Le football,
on
ce soir, c'est la demi-finale retour entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Match à suivre sur RMC à partir de 18h en direct du Parc. C'est une soirée spéciale, bien sûr. Et si vous voulez gagner l'expérience PSG Dortmund, c'est-à-dire l'avant-match, le match pour deux, hein, les places au Parc, et l'après-match, dès que vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions, vous envoyez PSG par SMS au 732-16. L'expérience PSG. Les deux places pour aller assister à la demi-finale retour entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. C'est à vivre et à gagner en direct sur RMC et RMC Story en regardant et en écoutant les GG, les grandes gueules. Vous envoyez PSG par SMS au 732-16. À suivre maintenant dans les grandes gueules, deux petits sujets de discussion. Avant l'arrivée de la flamme à Marseille, 8 arrondissements où on ne ramasse pas les poubelles. C'est parfait, on passera un petit coup de fil à Eric Dimeco. Et puis
il n'y est pour rien.
Oui.
Comment ?
Il n'y est pour rien, Eric.
Non, mais
lui va porter la flamme.
Mais il le vit. Et 99% des ralentisseurs en France seraient non conformes. Le scandale des ralentisseurs sur les routes. 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info. Ok Google, mais RMC.
Ok.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps.
Salut, c'est Jérôme Roten.
RMC, Roten sans flamme.
Je vous attends nombreux dès 18h pour Roten sans flamme sur RMC. Au programme, le débrief de Paris Saint-Germain Dortmund. Ça va être chaud avec Christophe Dugarry et Tony Vérel. Rendez-vous dès 18h pour Roten sans flamme sur RMC.
RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Elle a été enlevée, je crois. On a vu un rayon tomber directement. Et puis. Ah ben alors, Barbara Lefebvre, que se passe-t-il?
Elle fait ménage dans la régie.
Ah, mais non, oui. Déjà?
Eh oui, ça va très vite.
Barbara Lefebvre, professeure d'histoire géographie, Antoine Diers, consultant auprès des entreprises, et Jérôme Marty, médecin généraliste. Voilà notre trio de GG. D'ici midi, de quoi allons-nous parler? Des Français qui deviennent de plus en plus agressifs au volant. C'est une étude qui le démontre. Ce sera à 11h20 tout à l'heure. 11h20, le GG 7 et match. Est-ce que l'avenir de la France dépend du contrôle de l'immigration? Oui ou non? Oui pour Barbara et Antoine, non pour Jérôme. C'est une tribune signée Édouard Balladur qui nous fait nous pencher sur la question. 10h20, doit-on mettre fin à la folie des ralentisseurs sur les routes? La très grande majorité ne sont pas conformes, mais ils sont toujours là sur nos chaussées, les ralentisseurs. Voilà les sujets sur lesquels vous allez pouvoir réagir au 32-16. Les grandes gueules sont demain à Marseille. Les grandes gueules accueillent demain la flamme olympique. Nous serons, nous, les 5 GG et 150 000 autres personnes, enfin en toute intimité, dans la cité phocéenne. On va en parler maintenant.
RMC, les grandes gueules.
Ouais, parce que demain, nous serons à Marseille du côté du Mucem avec nos GG, avec Mehdi Guézard, avec Didier Giraud, avec Joël Dagosséry. Différents invités aussi comme David Douillet qui sera là, Redouane Bougueraba, l'humoriste marseillais, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier.
La ministre aussi.
Oui, Madame Sabrina Agresti-Roubache. Mais outre l'accueil de la flamme, il y a un souci pour les Marseillais dans 8 arrondissements, c'est les poubelles qui s'entassent.
Bah oui, l'image de Marseille est encore ternie avant l'arrivée de la flamme olympique. Il faut savoir que demain, Marseille sera au centre du monde, ça va être un événement considérable, le Belém qui arrive dans le Vieux-Port, et malheureusement la CGT éboueur a décidé de profiter de l'événement pour faire pression, et donc les poubelles débordent dans plusieurs secteurs de la ville. C'est le 9e jour ou 10e jour sans ramassage des poubelles dans 9 arrondissements de la ville. Donc c'est une horreur, c'est ce que disent les habitants. Bon, c'est vrai qu'on a un peu l'habitude des grèves des éboueurs à Marseille, mais enfin là ça tombe pas bien du tout. Le préfet va réquisitionner, donc on va voir ce qu'il en est. A priori réquisitionner, c'est-à-dire que c'est obligé des agents pour des raisons de salubrité à ramasser ces poubelles ou faire appel à des sociétés privées. Mais c'est vrai que ça tombe mal et c'est une fois plus dommage pour Marseille qui essaie de sortir de cette image parfois un peu d'image de ville sale, de ville dangereuse. Alors, il y a eu encore un règlement de compte avec un jeune de 17 ans qui a été tué. Bon, c'est dommage parce que ça fait oublier que Marseille demain sera plutôt au centre du monde.
Et quand on est allé au GG à Marseille, il y avait déjà la grève des poubelles, parce qu'on est arrivé, il y avait des poubelles de partout.
Oui, oui.
Donc ça peut être, c'est peut-être pas une grève, c'est peut-être l'état normal de la ville.
Voilà.
Excusez-moi, peut-être qu'en fait on appelle ça une grève, mais c'est l'état normal de la ville. Personnellement, j'ai connu Marseille quand j'étais petite, je n'ai pas souvenir que la ville était aussi crado. Mais bon, c'est comme Paris, vous me direz. Mais va vraiment, moi, la dernière fois qu'on y est allé, j'ai trouvé que c'était mais immonde. Il y avait des poubelles partout. Donc là, rien de nouveau.
En
sous
plus,
le soleil,
tu rajoutes ça un peu de Mistral.
Voilà, avec un. Et puis, il ne faudrait pas que la flamme aille prendre le feu sur les poubelles en plastique,
Antoine,
parce que ça va faire un joli barbecue. Hein.
Qu'est-ce qu'ils demandent, en fait? J'ai même pas suivi quelles sont leurs revendications.
Ce qu'ils veulent, notamment, c'est une revalorisation du taux de pénibilité, passer de 15% à 30%, revoir complètement l'offre de services publics du nettoyage et la propreté urbaine. Et la métropole dit tout ceci n'est pas acceptable.
D'accord, voilà. Parce qu'en plus, on avait eu le droit à toute la polémique sur le fameux fini parti. Je crois que les éboueurs de Marseille ont déjà.
Ils avaient fait grève pour garder ce système-là.
Oui. Ont déjà un système particulier. Bref, on en parlait il y a quelques jours. Il y a des gens qui sont dans une position de privilégiés dans notre pays, et je suis désolé de le dire, c'est un métier difficile, mais ils utilisent encore une fois leur position pour faire pression, etc. Pendant ce temps-là, les caissières, tous ces gens qui ne peuvent pas faire pression, restent dans des conditions difficiles. Et donc, moi, pardon, mais on doit revoir le droit de grève pour empêcher à certaines professions d'avoir cette espèce de capacité de pression facile. Et les éboueurs, là, allez, on fait appel à des sociétés privées, on nettoie tout Marseille, et vous voulez rester en grève combien de temps? On vous paiera pas, hein, et on va voir combien vous tenez. Donc vraiment, engageons le bras de fer. Il faut que nos politiques aient le courage, tiennent bon, parce que sinon on est à la merci de tout le monde, comme on le voit aujourd'hui.
Jérôme. Non, mais c'est de l'égoïsme pur, et c'est pourtant un syndicaliste qui vous le dit. On ne peut pas. Je veux dire, quand tu es en plein au centre de la mise en avant de ta ville, et donc de ses habitants, et on sait les difficultés de Marseille, difficultés quotidiennes, toute l'année, quoi. Tu ne fais pas ça, quoi. Tu ne fais pas ça pour donner un peu plus une mauvaise image de la ville, pour donner une image au monde entier, parce que tu vas avoir des caméras du monde entier. Ouais. Tu ne peux pas profiter de ce genre d'événement pour tes problèmes nombrilistes. Je veux dire, il y a un moment où l'honneur est plus important que le combat. Et là, c'est une image de déshonneur pour moi, quoi.
Il y a un collectif qui s'appelle Poubelle Ma Vie à Marseille.
Oui, c'est bien trouvé.
Eric Dimeco, que l'on connaît bien dans les émissions de sport d'RMC, dans le Super Moscato Show, futur porteur de la flamme, l'ami Eric est avec nous. Bonjour Eric.
Salut Alain, salut Olivier, salut les grandes gueules.
Et fierté quand même, fierté de savoir que un membre de la Dream Team RMC va porter la flamme à Marseille. Bravo, on est fiers de toi Eric, la classe.
Merci, je m'entraîne pour, j'ai beaucoup de problèmes d'arthrose, donc ce sera une course sous anti-inflammatoire, sponsorisée par les laboratoires, on ne donnera pas le nom.
Mais juste, tu vas parcourir combien de mètres avec la flamme
Je crois que c'est 500 mètres par relayeur et ils ont... Ils ont fait en sorte que tous les anciens sportifs, ou voire même les sportifs d'aujourd'hui, parce que le petit Valentin Rongier va être dans la, de la fête, donc ce sera le soir autour du stade Vélodrome.
Oui, mais moi j'ai une question, parce que on a la liste de tous ceux qui vont porter la flamme, mais visiblement il y a une surprise. Il y a une personnalité, et on parle beaucoup de Zizou, de Zidane. Est-ce que tu as des infos, Eric?
Je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est vrai qu'il y a une seule personnalité qui n'est pas connue, c'est celle qui va récupérer la flamme de Florent Manaudou et qui va faire le premier relayeur mercredi soir. Et bien sûr, quand on parle de sport, quand on parle de personnalité marseillaise qui pourrait marquer les esprits, Zizou vient en premier, bien sûr.
Ouais, ça serait très classe.
Dis donc, la fête n'est pas gâchée par les histoires des poubelles, là, Eric?
Alors écoute, Anaïs, quand elle m'a appelé pour passer, elle m'avait pas dit le thème du débat quand même.
Vous êtes
gonflé. Hein. Moi, j'aurais préféré, Alain, que tu me parles de la finale éventuelle de la Ligue Europa de l'Olympique de Marseille.
Il y a encore un match à passer.
J'aurais aimé que tu me parles de ça, des poubelles. Je suis pas bien placé. Moi, il faut appeler la mairie, la métropole, ceux qui sont concernés. Moi, tu sais, je le subis, hein, parce que je vis dans le centre-ville de Marseille.
Oui, donc tu es concerné quand même, puisque tu le subis.
Comme le disait Barbara, c'est récurrent chez nous et on le subit, voilà. Donc moi j'ai la chance de pouvoir entreposer mes poubelles sans les laisser dehors pendant un long moment, mais c'est pas le cas de tous les Marseillais. Et du coup, ça peut devenir vite très 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 désagréable. Ouais.
Mais on a fait. Comment ça se passe à Marseille? C'est puisqu'on arrive ce soir, nous. Mais c'est viable ou c'est la pagaille avec tous les sens qui sont mis, les sens interdits, les barrières et autres, Eric?
Non. Mais là, ça va être le centre-ville va être bouclé. À partir de ce soir, ça va être difficile de s'approcher en voiture, voire même en scooter du Vieux-Port. Demain, n'en parlons pas, puisque beaucoup le président de la République sera là, notamment. Donc, dès qu'il y a le président de la République, il y a tous les autres élus qui grenouillent, plus des sportifs, plus des people. Donc, ça va être le gros barnum. Alors, ça va faire une superbe animation, hein, super point de vue sur la ville. Mais c'est vrai que ça va être un peu le bazar et puis il y a ces problèmes liés vous l'avez parlé, hein, les problèmes de poubelles, etc.
D'accord. Ok. On te voit demain ou ce soir peut-être.
On va se croiser ce soir obligatoirement. Je vais vous montrer ce que c'est l'ambiance à Marseille le soir de match de Coupe d'Europe.
Alors attends, moi j'ai un problème, Eric, je suis désolé. Moi, en tant que supporter du PSG, déjà, j'ai loupé la première mi-temps. Je suis pas sûr que la deuxième mi-temps, j'ai envie de voir avec des Marseillais, mais bon.
Tu verras, c'est particulier, oui.
Tu vas passer une bonne soirée.
Je pense qu'on va gagner, le problème, c'est que je serai dans une ambiance, vous serez tous en train de faire la gueule, alors que je serai le seul à me féliciter de la qualification en finale.
Non, mais moi, ce qui m'inquiète, m'inquiète pour toi, surtout, c'est si vous vous qualifiez pas et qu'il y a la fin voilà. autour de toi pendant que toi tu fais la gueule. C'est ça qui m'inquiète surtout. <C'est... pour>
Moi, j'ai pas doute que c'est pas le scénario envisagé.
Barbara, une question.
Non, mais vous savez peut-être, mais j'imagine bien que les images qui vont être faites vont être des belles images bien léchées et que du coup, il va sans doute y avoir des réquisitions pour enlever les poubelles qui sont sur les sites filmés pour faire les belles images des JO. Ils vont quand même pas faire passer les relayeurs de flammes au milieu des poubelles.
Ah ben oui, j'espère.
Mais pour les Marseillais, ils sont toujours au milieu des poubelles, par contre. Flamme ou pas flamme.
Voilà, le problème, Barbara, dans cette histoire, c'est que on va faire en sorte. Je pense, hein, moi, je le dis, moi, je suis qu'un simple citoyen marseillais. Je pense qu'on va faire en sorte que les images soient belles, alors que le problème sera toujours là. C'est peu l'histoire de la vie, ça. Hein. C'est,
ça va surtout être l'histoire des JO, surtout. Mais parce qu'après, on va avoir Paris, ça va être pareil. Les jolies images et la réalité derrière, c'est autre chose.
J'avais couvert la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Ouais. Il y avait de belles images dans un pays où il y avait des grosses difficultés économiques et sociales. Et c'était passé à l'acte. Hein. Malheureusement, c'est l'histoire de la vie.
Ouais. Merci Eric, à ce soir.
À ce soir,
salut Eric, merci d'avoir été quelques instants avec nous à ce soir et avant avec le Moscato Show, bien sûr, à partir de 18h. Alex, tiens, et éboueur dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Alex.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Vous vouliez faire une mise au point, Alex?
Oui, je voulais intervenir parce que je vous écoutais là. Et j'écoutais, je voyais que vous n'avez pas toutes les informations pour les revendications pour lesquelles on fait grève. Il faut savoir que si on fait grève, déjà, premièrement, c'est pas un amusement, hein, parce que à la fin du mois, on perd de l'argent. Hein, donc moi, je prends pas plaisir à faire grève, ni mes collègues. Et si on fait grève, c'est parce qu'il y a des raisons. Les raisons, c'est que on n'est pas mis sur le même point d'égalité avec toutes les autres communes. Il faut le savoir aussi, parce que vous avez parlé du pourcentage de la pénibilité, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qui s'appelle un RICEP sur notre paye, c'est une genre de prime qui n'est pas équitable. Et la présidente Martine Vassal avait dit qu'elle allait le mettre équitable avec toutes les communes, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Vous prenez par exemple Istres ou Martigues ou Aubagne, ils n'ont pas le même recette que nous. Ils gagnent 200 euros de plus que nous.
D'accord.
Alors qu'on sait très bien que Marseille, c'est la ville la plus difficile pour que ce soit la collecte, que ce soit le nettoiement et tout ça. Voilà, je ne veux pas cracher sur les collègues de Aubagne ou Istres ou Martigues, mais en tout cas, eux, ils touchent 745 euros de recette. Nous, on est à 550 pour certains, ceux qui conduisent des engins, et 520 pour les autres.
Alors, ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire que c'était une promesse qu'on vous avait faite, c'est ça?
C'est pas une promesse, c'est qu'elle l'avait dit, elle devait le faire, et soi-disant, elle le fait pas pour telle ou telle raison. Mais doit être normal, puisqu'on est dans une métropole, on est dans la même métropole, on a la même présidente.
Alex,
donc pour tout le monde. Donc on devrait être payé la même chose, au minimum.
Parce que vous êtes en train de nous dire, Alex, que vous êtes tous des agents de la métropole, mais que selon la ville dans laquelle vous travaillez, vous avez des salaires différents.
Bien sûr. Ça fait des années.
Parce que si vous êtes les agents de la métropole,
comment ça se justifie?
Je comprends pas.
Ah ben, ce qui justifie, c'est que les personnes qui s'occupaient à l'époque, c'était avec les communautés. C'était pas la métropole. À l'époque, ben, les maires, ils avaient pris leur devant de ces villes-là. Et ils avaient mis au maximum le research que je vous dis là. La prime qui était supérieure.
Le régime
et nous, on devait s'ajuster. Martine Vassal avait dit qu'on allait ajuster au plus haut, mais elle l'a pas fait. Voilà, donc il faut comprendre tout la colère, parce que nous, on a eu une restructuration, là, il n'y a pas longtemps, dans certains secteurs de la ville, et c'est pour ça que c'est comme ça.
Et l'histoire du fini parti, tout le monde est au fini parti.
Ça fait des années, il n'y a plus de fini parti, ça n'existe plus.
C'est parti.
Il y a une pointeuse, il y a eu la pointeuse.
C'est pas fini, mais on est parti.
Voilà. Okay.
Non, il y a une pointeuse.
La question qu'on se posait, c'est la période, c'est le choix de la période et le choix de ce jour si particulier pour Marseille.
Monsieur, je vais vous expliquer. On a déposé un préavis de grève depuis le 9 avril. Depuis le 9 avril. Donc depuis ce temps-là, ils auraient pu prendre rendez-vous avec nous et essayer de trouver une solution. Maintenant, malheureusement, ça arrive qu'il y a la flamme qui doit arriver demain. Eh ben, c'est malheureux, encore une fois, pour Marseille, ça va peut-être faire tâche, mais nous, on n'a pas le choix.
Et demain, les poubelles ne sont pas ramassées, alors? Demain,
Ils ne sont pas ramassés, les poubelles, monsieur. Ils ne sont pas ramassés.
Il n'y a pas de réquisition?
Le préfet, vous les réquisitionnez?
Il n'y a pas de réquisition. Il y a des lois pour ça. Il n'y a pas de maladie, là. Il y a des gens qui sont grévistes. Ils ne peuvent pas faire de réquisition pour ça. Voilà, maintenant, ils le font déjà. Hors la loi, ils font déjà collecter le privé.
Ils peuvent faire venir des éboueurs d'une autre ville, monsieur.
Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. Voilà, il faut appel au privé. Ils ont déjà eux du travail dans d'autres arrondissements. Ils arrivent à peine à s'en sortir. Donc là, ils font style de faire croire que tout est beau, tout est bien, parce que ça va passer à la télé. Donc le passage de la flamme, bien sûr, vous n'allez pas voir de poubelle. Mais par contre, tout le reste de la ville, il y a de la poubelle de partout.
Oui, mais moi, c'est ça qui... Enfin, moi, je me pose une question quand même, parce que j'ai connu Marseille dans les années 80, etc.
Bon, c'est une ville du bassin méditerranéen, c'est une ville où on vit beaucoup à l'extérieur. Donc bon, mais excusez-moi, au cours de la dernière décennie, les rares fois où je suis allée à Marseille, à chaque fois il y avait des poubelles qui débordaient de partout. Je vais pas vous dire que Paris c'est plus propre, mais enfin on n'est quand même pas arrivé à ce niveau-là. Je ne comprends pas la dégradation de la propreté la gestion, à Marseille. Comment vous l'expliquez-vous ?
Eh ben moi je l'explique parce que déjà l'organisation elle est mauvaise. Et les gens qui s'occupent de ça, qui sont censés être nos dirigeants, voilà, ils font mal les choses. Ils sont pas au courant du métier. Ils savent pas. Ils ont jamais touché une poubelle ou un conteneur. Et c'est eux qui décident de tout. Je vous dis, là, il y a eu une restructuration, là. Il y a un mois, moi, je suis au secteur 11-12 nuit, à la base. Là, on est passé du matin. C'est le bordel. C'est le bordel. D'accord. On passe que deux fois dans des endroits, alors qu'avant, on passait six fois par semaine. Parce que monsieur, il veut appliquer les lois de la Commission européenne qui dit qu'il faut faire le tri et tout ça. Mais c'est pas possible de tout changer comme ça. Marseille, c'est une ville spéciale. Marseille, c'est une ville qui est, comme vous l'avez dit, c'est une ville méditerranéenne. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup il y a beaucoup de, comment dire.
Il
y a beaucoup de vent. Ça joue beaucoup, madame, pour la propriété.
Oui, ça joue, mais
justement, il y a du Mistral.
Il y a aussi beaucoup du je jette ma poubelle n'importe comment. Ça, c'est pas trop.
Mais il faut rééduquer les gens. On fait comment?
C'est bon, travail. Vous avez raison aussi.
Nous, on fait notre travail. Après, les gens, s'ils font n'importe quoi, vous voulez qu'on fasse comment?
Alex, merci de cette mise au point.
Non, mais les Marseillais n'ont pas toujours fait n'importe comment. Moi, encore une fois, mon grand-père, en plus, était Marseillais. Enfin, il était Corse, mais il a vécu toute son enfance à Marseille. Il en avait un souvenir extraordinaire. Les photos que je vois de mon grand-père dans les années, les années 20-30, à Marseille, c'était pas dégueulasse comme ça, je suis désolée.
Peut-être que les gens ont changé.
Oui, peut-être
que les gens ont changé. Ça, un peu.
Ça, sans doute.
Peut-être que la consommation a changé aussi.
Oui, la consommation, c'est-à-dire qu'on a plus de déchets qu'avant.
Parce que si tu pesais le sac de poubelle, tu vois.
L'alerte Ligue des Champions, même, hein. Paris Saint-Germain Dortmund, c'est ce soir l'expérience à vivre, l'expérience RMC. Vous faites l'avant-match avec les équipes d'RMC, vous allez au parc à deux ensuite et vous revenez faire le débrief du match. Ça se tente, vous m'envoyez PSG par SMS au 7-32-16. PSG par SMS au 7-32-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Le gagnant, justement, en direct tout à l'heure avec nous à 11h20. Dans un instant.
Je peux lancer quand même un appel puisqu'on parle de Marseille, parce que demain on va passer la journée à Marseille et on aimerait bien trouver un bon petit resto avec une terrasse. Oui, parce qu'il va faire très beau demain à Marseille. Ouais. Donc s'il y a une petite terrasse, si quelqu'un fan des GG nous écoute, je sais que chez les restaurateurs on nous écoute beaucoup.
On va passer par le 32-16, voilà, Anaïs s'en occupe.
On fait plaisir avec l'équipe venir déjeuner chez vous.
On y est 27, non. On a un budget de 12 euros par tête. 20 compris et le dessert aussi.
C'est au cordeau.
Non, c'est pas pareil, on y est une petite. Combien on y est 8
Non, on est 13, je crois, 13-14.
Ouais, 13 à table. 13 à table. On trouve un 14e. Dans un instant, 90% des ralentisseurs ne sont pas conformes. Ça, c'est encore une spécificité française. Venons en discuter avec nous au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire, des réveils, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h39. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 7-32-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Antoine Diers, consultant auprès des entreprises, Jérôme Marty, médecin généraliste, et nous sommes avec Barbara Lefebvre qui est professeure d'histoire-géographie. On va parler des routes encore, me direz-vous. Oui, parce que ça ne s'arrange pas. La semaine dernière, c'était l'état de nos routes, vous savez, avec la fissure de la 13, et là maintenant, c'est les ralentisseurs non conformes.
RMC, les grandes gueules.
En fait, c'est la spécialité française, les ralentisseurs non conformes. On détient le record du monde de ralentisseurs. On en a plus de 450 000 aujourd'hui dans le pays. Et 90% dépassent les 10 cm de hauteur réglementaire. Écoutez ce qu'en dit cet avocat spécialisé des questions routières, justement.
Pour l'instant, la cour administrative n'impose pas la destruction de ces ralentisseurs pour des raisons certainement liées au coût.
Oui.
Dorénavant, un maire ne peut plus installer un ralentisseur hors norme. À défaut, eh bien, ce ralentisseur serait détruit par une décision judiciaire à venir. Ça coûte aussi cher de le détruire que de le construire. Un ralentisseur, ça coûte entre 7 500 € pour les plus simples, jusqu'à 150 000 euros.
Quoi ? 150 000 euros, le dodane ?
Mais oui.
Non, mais ça va pas la tête. Hein.
Oui, c'est en fait.
Ah bah c'est une manne. Hein.
Le problème, c'est non, qu'il va falloir maintenant mettre aux normes ces ralentisseurs, parce que tu as dit plus de 450 000. Alors on les appelle. Il y a plusieurs noms. Hein. Il y a Dodane, il y a Coussin Berlinois,
il y a gendarme couché.
Gendarme couché. Bon, bref.
Coussin Berlinois, moi je l'aime bien celui-là parce que t'arrives bien à le prendre sur le côté et des fois, bah tu peux l'éviter. Ouais.
Alors, le problème, c'est que maintenant, il va falloir appliquer la loi. C'est arrêté marseillais qui fixe des règles. Et ça va être compliqué du côté des élus parce qu'il va falloir effectivement revoir, peut-être supprimer des dodanes. En tout cas, qui n'a pas pesté contre ces dodanes en se disant, mince, je suis en train de péter ma bagnole.
Ouais, Antoine. Alors, on va parler de ça, mais on va aussi parler de l'autre côté, de l'envers du décor, parce que je le dis souvent ici, j'ai bossé pour des élus locaux, et régulièrement, on avait à la mairie des gens qui venaient nous voir en disant, oui, ça roule beaucoup trop vite dans notre rue, si vous ne nous mettez pas un ralentisseur, un dodane, c'est donc que vous voulez la mort de nos enfants, etc. Donc l'élu, il est pris dans une espèce de pression entre les habitants de la rue qui lui demandent le dodane, hein, qu'il l'exige, parce que sinon il les laisse face au danger des voitures qui roulent vite, et l'automobiliste qui, lui, voit beaucoup trop de dodanes partout. Et donc je pense qu'en fait, on est encore une fois dans le truc très français de on veut un dodane, mais pas sur notre route. Chacun voudrait un dodane dans sa rue pour que les gens roulent moins vite. Mais quand c'est nous qui sommes au volant, on voudrait qu'il n'y ait plus de dodane.
Moi je suis pas d'accord avec ça. Alors, dans ma rue, effectivement, il y a un dodane, mais il en faudrait un autre à un autre endroit parce que.
Ah, tu vois, tout le monde en rajoutait un déjà.
Oui, mais moi-même,
parce que c'est une conduite. Mais ailleurs, non.
Non, mais j'ai une conduite un peu nerveuse que j'admets, et je m'en excuse, ça, je le reconnais.
C'est bizarre.
Voilà. Mais du coup, je me dis, des fois, heureusement qu'il y a des dodanes. Parce que grâce à ça, je ralentis. Il y a les radars, je connais, et il y a des dodanes. Parce que parfois, dans certaines situations, je pense que s'il n'y avait pas le dodane, j'irais un peu vite. Donc, moi, je pense que les dodanes, par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on fasse des dodanes qui ne soient pas conformes à la réglementation. Moi, j'aime bien les dodanes comme ça, qui sont un peu larges et longs, ce qui fait que tu le prends, tu es vraiment obligé de ralentir, mais ce n'est pas un truc brutal. Il y a des dodanes qui sont très courts, très étroits, et ceux-là, ils te tapent la caisse de la voiture. Alors que les dodanes qui sont un peu longs, tu es quand même obligé de ralentir. Et je suis désolée pour les gens qui ont des conduites qui ne sont pas forcément des conduites très raisonnables et qui ne roulent pas à 30 à l'heure en ville. Le dodane, c'est bien quand même.
Non, mais excusez-moi, mais le plus fou, c'est qu'on est quand même le pays des normes. Et que sur cette problématique-là, on ne respecte pas les normes et on fait n'importe quoi. Pour éviter un danger, on crée un danger. Parce qu'alors, amusez-vous à prendre des dodanes qui ne respectent pas l'angulation, avec une peinture qui glisse, le tout sous la pluie et en moto.
Oui.
Je vous garantis qu'il y a un vrai danger. Ensuite, quelle est la protection des gens, des riverains, je parle, ou des gens qui habitent à un endroit où on met un dodane? Parce que je peux vous garantir que votre maison, elle perd sacrément de sa valeur. Parce que quand toute la journée, vous entendez papam, 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 des milliers de fois, il y a de quoi devenir dingue.
Donc,
quelle est la protection? Parce qu'on n'en parle jamais, mais il y a une dévalorisation totale. Quoi. Donc moi, ce qui m'étonne le plus, alors, et ensuite, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces marchés? Parce que comment les mairies choisissent de ne pas respecter une norme et d'éventuellement provoquer un accident. Là, ça me trouble un peu, moi.
Après le lobby des ronds-points.
On aura peut-être un maire qui va nous l'expliquer.
Mais moi, je me pose une autre question. On s'est aperçu, on en parlait à propos de l'autoroute A13, qui est toujours fermée d'ailleurs entre Vaucresson et Paris. Et on s'est aperçu à cette occasion que l'état de nos routes était mauvais. Que d'ailleurs, on a dégringolé au classement de la qualité des routes. Nous sommes passés de la première à la 18e place parce que on met moins d'argent dans l'entretien de la voirie. Parallèlement, on apprend qu'on débourse un pognon de dingue dans les ralentisseurs. Donc d'un côté, c'est collectivités qui se plaignent toujours de manquer d'argent. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas un maire qui se plaint pas, j'ai plus d'argent. Bon, donc c'est gens-là dépensent entre 35 000 et 150 000 euros par dodane et en même temps n'entretiennent pas la voirie, ce qui est tout aussi dangereux d'ailleurs pour l'accidentologie, parce que si des ponts s'écroulent, c'est quand même un peu compliqué. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que soit on n'a pas d'argent, mais dans ce cas-là, on n'a pas d'argent non plus pour l'ralentisseur. Mais évidemment, on a de l'argent pour les ronds-points et les ralentisseurs, mais on en a moins pour entretenir les ponts, les viaducs et les routes.
On va en parler du côté de la Seine-Maritime avec Charles, qui est employé de voirie. Bonjour Charles.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Ah, donc du coup, employé de voirie à Vorom, c'est ça?
À Marom,
exactement. À Marom, pardon. Donc vous êtes de la partie, si je puis dire.
Alors en fait, moi je suis dans une société qui loue des engins, ces engins-là, ce sont des finishers.
Oui.
Et on applique les enrobés sur les routes, et avec ces engins-là, ça nous arrive parfois de faire des dodanes, des ronds-points, etc. quoi.
Ouais, mais pourquoi, comment vous expliquez, un, qu'on en ait autant, et deux, qu'il y en ait autant qui ne soient pas conformes alors?
Bah, en fait, le souci, c'est qu'on est dans l'ère ultra sécuritaire. Je vois, comme j'ai expliqué à votre intervenant, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un cercle vicieux. Et aujourd'hui, on ne fait que des ronds-points, que des dodanes, tout ça pour limiter la vitesse. Mais aujourd'hui, il y en a trop, si vous voulez. Par exemple, prenez le cas des ronds-points aujourd'hui. Je crois qu'en France, on a entre 40 ou 50 000 ronds-points. Le deuxième pays dans le monde où il y en a le plus, je ne sais plus lequel que c'est, mais je crois que c'est l'Allemagne. On n'a que 15 000 et je trouve qu'en France c'est du grand n'importe quoi. Et en plus, par rapport au coût et à l'entretien, aujourd'hui avec toutes les histoires de routes où il y a des nids de poules tout tralala, là tout à l'heure je vous entendais dire avec 150 000, enfin vous disiez que 150 000 euros on pouvait faire un dodane, mais aujourd'hui avec 150 000 euros on pourrait faire un route départemental dans une campagne qui est complètement
pourrie, voilà. Si vous voulez. Exactement.
Ah oui.
Donc, les ronds-points c'est des business, hein, les ronds-points ça fait travailler les entreprises locales.
Oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu fais pour diminuer la vitesse dans les villes? Non, mais qu'est-ce que tu fais pour diminuer la vitesse dans les villes? Parce qu'il y a énormément de gens qui se font renverser sur des passages
boutés. Je suis d'accord.
Il y a énormément de gens qui ne respectent pas la priorité. La conduite en ville, elle est vraiment hyper dangereuse. Enfin...
Alors après, attention, il y a quand même deux types de conduite aussi, c'est que en ville, bon, c'est quelque chose, on est que dans les dodanes ou les passages piétons, il y a des feux à tout coin de rue, tout tralala, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on sait très bien que dans les villes, il y a beaucoup plus, par exemple, d'écoles, de collèges, de trucs comme ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on oublie un peu aussi tout ce qui est les campagnes, tout tralala, où il y a vraiment besoin, parce que moi, je vois dans mon métier, on fait ce qu'on appelle aussi des purges, c'est-à-dire des endroits où il y a des nids de poules. On va les raboter, puis on va remettre de l'enrobé dessus, mais c'est sur des toutes petites surfaces. Le problème, c'est que ça, c'est un peu comme des boutons d'acné, ça repousse de partout, donc vous allez revenir quelques mois après pour reboucher. Et quand on fait des dodanes, bon, c'est bien, mais le problème, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a de l'argent en France, enfin,
voilà.
Au niveau des communes ou je sais pas quoi, que pour faire les centres-villes, les métropoles, pour faire la politique sécuritaire.
Ah oui,
sur les dodanes ou même sur des plateaux.
On délaisse le périurbain.
L'entretien du périurbain,
voilà. Mais après, moi, je veux bien comprendre que les métropoles soient belles et qu'elles soient accueillantes. Je vois, là, c'est le cas pour Paris avec les JO. On est en train de refaire tout un tas de quartiers comme... Je vois le quartier où il y a eu les manifestations le 1er mai. J'ai été faire toutes les pistes cyclables là-bas.
À Paris, tout l'argent est parti sur les pistes cyclables. En revanche, la voirie est pas bien entretenue. Alors, il y a les nids partout à Paris. Hein.
Charles, vous allez voir, on va en discuter avec Thierry Modolo, qui est gestionnaire de patrimoine, qui est dans le Var et qui est porte-parole et fondateur de l'association pour une mobilité sereine et durable. Bonjour Thierry.
Bonjour Alain, bonjour les GG.
Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on est toujours épaté, on y revient régulièrement. Pourquoi ça prend autant de temps d'arriver à mettre des dodanes aux normes et de faire en sorte qu'on en ait moins surtout, Thierry?
Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de normes, on est déjà dans la phase d'après. La première chose qui rend illégal un ralentisseur, c'est l'endroit où on le met. C'est le décret. Et en fait, aujourd'hui, le système a été totalement dévoyé à cause d'un organisme d'État que vous connaissez tous et qui s'appelle le CEREMA. Ce sont des fonctionnaires d'État payés avec nos impôts et dont le seul but est d'inciter les élus à ne pas respecter la loi, notamment sur les ralentisseurs. Tout à l'heure, j'ai entendu plein de choses très intéressantes. Je crois que c'est M. Marty qui a parlé du prix d'une maison. Alors la perte, c'est 30%.
Ah oui, quand même.
Ah oui, ça fait mal, ouais.
Quand on a des dodanes devant chez soi, ça dévalue de 30%.
Absolument.
La vache.
30%. Le coût des ralentisseurs, c'est plus de 7 milliards d'euros en 10 ans. Normalement, le décret de 94, qui a 30 ans ce mois-ci,
a été prévu pour enlever toutes ces dangerosités de la route. C'est ainsi que ça a été créé. Et pour cette raison-là, en théorie, aujourd'hui, nous ne devrions plus avoir un seul ralentisseur quasiment. Quasiment plus un seul ralentisseur en France. Absolument.
Pourquoi ? Parce que leur dangerosité a été avérée.
Absolument. Et nous, d'ailleurs, à l'association, nous avons des personnes lourdement accidentées, dont certains, le préjudice se compte en millions d'euros, qui sont gérés.
Et qu'est-ce qu'on peut faire comme recours pour obliger une collectivité à supprimer ces dodanes ?
Alors, déjà, pour supprimer les dodanes, le prochain recours, c'est devant le Conseil d'État, puisque la Cour d'appel de Marseille a jugé que, finalement, on n'apportait pas la preuve de la pollution et pas la preuve de la dangerosité. Or, il a été avéré, et nous avons produit des études qui prouvent le contraire. Donc ça va se discuter devant le Conseil d'État dans les mois qui viennent. Pour vous donner un ordre d'idée, un ralentisseur, c'est pour chaque véhicule qui passe, plus 25% de pollution, plus 30% de gaz à effet de serre, et plus 300 à 1000% de particules fines, par véhicule, par dodane. Il y en a 450 000. Aujourd'hui, on nous parle du matin au soir, et vous en faites l'écho dans les grandes gueules, toute la journée de pollution, En fait, les élus sont les premiers à générer volontairement, parce que c'est volontaire, puisqu'on ne respecte pas la loi, volontairement la pollution en France.
C'est dingue.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des riverains qui demandent des ralentisseurs devant chez eux dans leur rue. Quoi. Donc l'élu est un peu pris entre deux feux.
Merci Thierry de ces explications. Merci à Charles d'avoir été avec nous, l'employé de Voirie. À suivre, parce que comme nous le disait Thierry Modolo, en fait, aujourd'hui, les communes doivent supprimer, si j'ai bien compris, les ralentisseurs, puisqu'il y a la loi à attester de la dangerosité, mais elles ne le font pas. Allez, dans un instant, avec les grandes gueules, rejoignez-nous au 32-16 pour discuter de la tribune d'Edouard Balladur dans le Figaro.
Il a eu 95 ans, il y a quelques jours.
L'ancien Premier ministre fait des propositions parce que, dit-il, la France est victime de déclassement. La première d'entre elles, aujourd'hui, c'est de reprendre le contrôle de son immigration. Est-ce qu'il a raison, l'ancien Premier ministre ? Oui, pour Barbara et Antoine. Non, pour Jérôme. Et on en parle avec vous au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous au 32-16. On parlait de la route il y a quelques instants avec les ralentisseurs. On reviendra sur la route, mais cette fois-ci dans l'habitacle, avec les Français qui deviennent de plus en plus agressifs au volant. Pourquoi ? 32-16 pour en discuter tout à l'heure à 11h20 avec nous. On klaxonne, on injurie, on colle délibérément le véhicule qui nous précède. Notre comportement est véritablement en train de changer. Il y a toujours eu au volant quand même des comportements, on va dire, individuels. Sauf que là, on a l'impression que ça se généralise. Ça touche tout le monde. Tout le monde a son accès de colère, son accès de folie aujourd'hui au volant. Pourquoi ? 11h20, on essaiera de comprendre ça avec vous au 32-16. Peut-être avec les responsables d'auto-école. Est-ce que ça se traduit déjà au moment des leçons de conduite ? Venez en discuter avec nous. En attendant, on va évoquer la tribune de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur.
RMC.
GG, 7 et match.
La France est victime de déclassement économique, social, culturel, diplomatique et militaire.
Rien que ça.
C'est ce que dit Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre. Et donc, il fait le diagnostic et il évoque un certain nombre de solution, l'ancien chef du gouvernement. Il dit qu'il faut retrouver notre souveraineté nationale en matière de contrôle d'immigration, car, dit-il, notre avenir en dépend. Et, dit Édouard Balladur, pour ce faire, le seul à détenir la légitimité nécessaire pour décider ce qu'il a à faire, eh bien, c'est le peuple. C'est le peuple français. Et donc, il faut un référendum pour modifier l'article 11 de la Constitution, pouvoir avoir un référendum sur l'immigration. Alors, est-ce qu'il a raison, Édouard Balladur ? L'avenir de la France aujourd'hui dépend du contrôle de l'immigration. 32-16 pour le dire au GG. Oui, pour Barbara, Antoine et Olivier. Non, pour un homme seul face au reste du monde, c'est le docteur Jérôme Marty, dont on peut prédire la pulvérisation façon puzzle, normalement. Dans le résultat.
Mais le garçon a de la ressource.
Mais on l'espère. Antoine, c'est à toi que reviennent les 60 secondes.
Non, on avait dit pas.
Là, ça va être un peu pareil. Mais le sujet, c'est l'immigration, mais quand même, qu'il me soit permis de dire que c'est quand même fort de café, qu'un personnage comme M. Balladur, qui a été député de 86 à 2007, qui a été Premier ministre de 86 à 88, et qui a même dirigé la présidence...
Premier ministre, pas de
93-95, Premier ministre, et président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale entre 2002 et 2007. Il a découvert à 95 ans, donc je dis, mieux vaut tard que jamais, donc il y a toujours de l'espoir. Maintenant, Monsieur Balladur a bien raison. Je vais prendre seulement sous l'ère de Monsieur Macron, parce qu'on va rester sur l'ère macroniste. On est à 3,5 millions d'entrées en France régulières, c'est-à-dire les réguliers plus les demandeurs d'asile, dont on sait qu'ils sont environ 142 000 demandeurs d'asile pour 2022 par exemple, et que seule une toute petite poignée aura son asile. Donc on voit bien qu'on a un vrai problème, parce que derrière tout ça, on a un problème de misère sociale pour eux, de misère économique qui fait... une surreprésentation carcérale, on le rappellera, 24% de la population carcérale en France est étrangère, alors que c'est 7% de la population totale. On a un problème d'insertion économique et culturelle, donc bien sûr qu'il faut...
Alors, réponse, Jérôme.
Mais on va développer tout cela.
Non, mais le titre est important. L'avenir de la France dépend-il de son contrôle de l'immigration ? Oui, certainement, il faut faire beaucoup de choses pour l'immigration, mais de là à dire que l'avenir de la France dépend de cela... Excusez-moi, mais on est dans une exagération totale et fantasmatique. Je veux dire, on se rapproche à ce moment-là, l'immigration choisie, le grand remplacement, etc. On sait d'où ça vient, tous ces termes-là. Et quand M. Balladur, du haut de ses 95 ans, effectivement, nous assène cela et fait une espèce de dierse dans le texte, la France était mieux avant, là on a été déclassé partout... On a été complètement déclassé partout. On donne une fois de plus la prime au Rassemblement National, parce que les gens préfèrent toujours l'original à la copie.
Donc
quand on veut jouer les, en fait, on donne la prime à l'autre. Et c'est dangereux parce qu'encore une fois, d'abord, oui, il y a des immigrés qui rentrent sur le territoire français et en nombre, mais combien restent ? Ils ne restent pas tous là.
Oh
on est une porte d'entrée pour l'Europe et t'en as beaucoup qui partent en Angleterre, qui partent en Allemagne, qui partent dans nos pays. Ensuite, quand on commence à parler d'immigration choisie, vous irez me trouver qui fera la dame pipi, vous irez me trouver qui fait les métiers difficiles, etc. etc. Vous les prendrez plus.
Il y a plein de Français.
Dites aux Français qu'ils le fassent.
Si tu les payes, les Français le font. Non, c'est parce que c'est des métiers sous-payés par le patronat, bien sûr que si.
Oui, bien sûr.
Mais même Georges Marchais le disait déjà dans les années 80.
Oui. Tu as raison.
Et même Jaurès l'a dit. C'est précisément parce qu'on fait du dumping salarial.
Je te rappelle que nos hôpitaux, par exemple, tournent avec des médecins à 90% ou 95% avec des médecins à diplôme en réunion.
Qui sont moins bien
payés. Et qui sont moins bien payés.
La faute au numerus clausus, la faute à tout ça, voilà, aux politiques.
C'est pas venu de là. C'est venu de la désertion, justement, parce que les gens ne voulaient plus aller travailler dans ces endroits-là.
Pourquoi ?
Parce que
quand la France était un pays où faisait, quand la France était un pays où il faisait bon travailler, où on pouvait vivre de son salaire, où il y avait une possibilité d'ascension sociale pour ses enfants, excuse-moi, bien sûr que l'immigration ça existait. Je vais pas te dire, il faut une immigration zéro, ça veut rien dire. La France, il y a
tout le monde adorait manier le marteau-piqueur. Avant c'était les Espagnols, après ça a été les Italiens, après ça a été les Maghrébins.
Mais c'était dans des proportions.
Si on peut sortir,
c'était dans des proportions qui étaient assimilables et intégrables par le corps social. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. L'éponge, elle est pleine.
D'accord, mais ce qui est intéressant, parce que sortons un peu des caricatures, on a besoin d'immigrés, etc. Ils font le boulot que les Français ne veulent plus faire, d'accord. Mais ce que dit Balladur, et justement, c'est pas Bardella ni Marine Le Pen. Édouard Balladur, c'est quelqu'un de raisonnable. Il a été le conseiller de Georges Pompidou, conseiller présidentiel de Georges Pompidou.
C'est beaucoup de conneries, Balladur.
Qui a donc connu effectivement la France qui allait bien, celle de Georges Pompidou. Et je pense que ça a été plutôt un bon Premier ministre lorsqu'il était Premier ministre de cohabitation de François Mitterrand. Et avec le recul, chacun dit que effectivement, quand Balladur était à Matignon, c'était plutôt bien tenu, aussi bien son gouvernement que sa majorité, il n'y avait pas de frondeur. Il a mené des politiques. Il dit quoi ? Il dit, en fait, le problème, c'est que l'Europe est en train de se fédéraliser et qu'à un moment donné, ça va nous échapper le contrôle de notre politique migratoire. On a déjà adopté le pacte d'asile immigration. Or, au sein de l'Europe, tout le monde n'a pas le même point de vue sur cette question de l'immigration. Donc, il dit, il faut simplement que la France
puisse garder quand même le moyen des leviers
alors,
pour
oui,
pouvoir
mais là,
décider
excuse-moi,
elle-même.
Hypocrisie de Monsieur Balladur qui a été un des acteurs de la constitution Maastricht et la constitution le référendum sur la constitution en 2005. Il faisait partie de ceux qui nous serinaient en nous disant ah c'est l'avenir, faut voter la constitution, et les Français ont dit non, et les Français on leur a dit allez va te faire voir. Donc là aujourd'hui il nous parle ah les dangers du fédéralisme. C'est un mec comme ça qui a voté oui à la Constitution européenne.
Je vais être moins dur que toi. Moi, j'ai envie d'accueillir tous ceux qui se rachètent un peu avant de voir la fin arriver.
On a le droit de se tromper.
Et qui disent,
qu'on voit que t'es un humaniste, en fait.
Exactement, je suis un grand humaniste. Mais que même Balladur finisse par dire « Les gars, allô, on a un problème avec l'immigration. » Et surtout, il a un truc extrêmement intéressant dans son écrit, là. C'est qu'il dit « Nous devons permettre aux Français de faire un référendum. Nous devons modifier la Constitution. » C'est une réponse...
Aujourd'hui, on ne peut pas faire de référendum sur l'immigration. Donc, il faut faire un référendum avant.
Attends, on ne peut pas, d'après ce que dit le président du Conseil constitutionnel, qui utilise le levier constitutionnel pour verrouiller le débat. Donc, on n'a pas le droit de décider.
C'est la faute de l'Enfabus.
Exactement. Sur l'immigration, vous n'auriez pas le droit de décider, les Français. Donc, si même Balladur dit ce serait pas mal qu'on soit un petit peu démocrate, ce serait pas mal que les Français puissent choisir.
Lui, il dit qu'il faut faire deux référendums. Il dit qu'il faut faire un référendum pour modifier l'article 11 de la Constitution
pour qu'on puisse faire un référendum sur l'immigration.
Donc, cette fois,
c'est la même chose que Fabius.
Oui, non, mais il répond à Fabius en disant non, mais ça doit pas. Fabius, il dit non, on peut pas.
Non,
et Balladur, il dit oui, on peut, mais on va le faire en deux référendums. Eh bien, moi, je dis merci, monsieur Balladur. C'est un peu tard, mais si enfin nos élites donnent la parole au peuple français par un référendum, si enfin on va pouvoir choisir,
mais non,
bah moi
Antoine,
je pense
quand on fait des référendums, on n'écoute pas la parole des Français.
Là,
mais là, ils veulent pas le faire.